You out of earth.
20h02 sur Radio G, tout de suite c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille, tout de suite c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. On est évidemment ravi de vous retrouver en ce mardi 26 septembre 2023. Donc voilà, c'est la troisième de la saison. Une saison qui va, on sait, être assez chargée avec les JO, mais aussi, on peut vous l'annoncer dès ce soir, le renouvellement de notre partenariat avec le club de l'UFAB 49, club élite du basket féminin. Donc voilà, c'est cool, Cédric. Alors je vais te présenter d'abord. Salut Cédric, comment ça va? C'est cool que le partenariat puisse reprendre.
Eh ben écoutez, bonjour à tous. Oui, effectivement... C'est vraiment de la news toute fraîche puisque ce matin on avait un petit rendez-vous avec l'UFAM 49 justement pour parler un petit peu du partenariat. Donc ce qu'on peut confirmer de sûr à 100% c'est que comme l'année dernière, on recevra tous les mois quelqu'un du club.
C'est ça.
Donc ça pourra dans l'idée, on aura toujours des joueuses. On va aussi essayer d'innover puisque c'est vrai qu'on parle souvent des joueuses. Mais on parle pas forcément aussi des à côté, c'est-à-dire des bénévoles, du centre de formation, et aussi, pourquoi pas le président, ou tous les gens qui travaillent autour du club.
C'est ça.
Voilà, c'est dans les petites nouveautés, on va dire, de la saison. On espère trouver des créneaux aussi pour vous faire des lives qu'on a pu le faire il y a 2 ans. Voilà, c'est toujours plus sympa aussi de vivre la passion du sport en direct.
En direct de la salle.
Avec notre regard aussi j'ai envie de dire de fan, mais aussi d'amateur commentateur.
C'est ça.
Et puis,
d'ailleurs, en radio, je crois qu'on sera les seuls à commenter les matchs. Donc, c'est
en
quand
tout
même,
cas, on a cette opportunité pour l'instant voilà. Donc, on remercie le club de leur confiance.
Évidemment.
Voilà, depuis 3 ans maintenant, je crois qu'on est en partenariat.
Oui,
à peu
un
près.
Truc comme ça, peut-être même un peu plus.
Un petit peu
y a
plus,
le COVID
mais en tout cas,
par
voilà, enfin. Donc beaucoup de choses voilà qui vont se dérouler cette année. Est-ce qu'on parle de la nouveauté qui pourra intéresser plus nos auditeurs?
Dis-nous. Dis-moi, parce que je sais pas de quoi tu veux parler.
Il est possible que cette année, il y ait des petits jeux concours.
Ah, évidemment.
Soit en direct, soit sur Twitter, Instagram. En tout cas, voilà.
Sur les réseaux.
Voilà. Sur les réseaux, voilà. En tout cas, voilà, il y aura peut-être des possibilités de vous inviter, voir des matchs.
On va vous faire gagner des places pour cette saison 2023-2024. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous tapez Génération Sport et normalement, vous devriez nous trouver assez rapidement. Merci Cédric pour ce petit point sur le partenariat avec l'UFAB. Je présente également nos deux autres chroniqueurs qui sont avec nous dans les studios. Il y a Faustin, micro bleu. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex et tout le monde. Bah, ça va toujours très bien pour cette troisième émission.
La forme?
Bah ouais.
Un bon week-end?
Un week-end mitigé à cause d'une défaite.
Ah, une défaite. Ça te parle le moral,
là. Il est passé où, là, le victorieux, là, toutes les semaines? Là,
c'est compliqué. Changement de catégorie, il faut se remettre dedans. Là.
Ah oui, c'est vrai. Du coup, t'es passé
en U20.
Et tu étais
J'étais en U17.
U17. Ah oui, quand même. C'est quand même pas mal. Hein, un gros gap. Donc, tu joues contre des adultes, quelque part.
Bah oui, finalement. Des mecs de 20 ans. C'est pas la même.
C'est forcément, faut avoir le gabarit.
Est-ce que les spectateurs vous ont pris à part après la défaite du match pour remettre les choses. Je fais du teasing, hein. Je fais du teasing.
Et oui, effectivement. Non, pas à ce niveau-là, peut-être. Pas encore.
En tout cas, j'espère.
Pas encore. On sait jamais. Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, moi, contrairement à Faustin, ça se passe bien. Victoire 10-0 ce week-end.
10-0.
Facile.
Mais tu jouais contre des U5 ou?
Non. Mais...
Oh, ils jouaient au baby foot.
Non, mais on a une très bonne équipe. Je pense qu'on peut viser la région cette année. Donc,
C'est de bonne augure.
Ouais.
C'est de bonne augure. Toi, le transfuge de d'Avrier vers Montreuil. On reparlera pas de ce transfert polémique, hein, qui a agité évidemment tout le mercato. Ah, ouais. Mais voilà, effectivement, c'est bien, les gars, si vos saisons, en tout cas, se lancent.
Ouais.
Bien ou mal, mais au moins elles se lancent.
Tant que le plaisir est là, j'ai envie de dire.
Ça. Voilà, c'est ça.
C'est important de faire du sport, on le rappelle.
Ouais.
Au programme de cette émission, comme je le disais, on va revenir sur toute l'actualité, local et international. C'est une émission, un talk, voilà, on est assez tranquille là-dessus, on va pouvoir digresser sur les différents sujets. On va parler donc au niveau du sport local, du foot, que ce soit le SCO qui joue ce soir également, mais aussi voilà des résultats des autres équipes du département. Faustin nous fera un point sur le basket, puisque ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble sur le week-end. Et puis on parlera aussi de handball, d'éduc, et puis on fera ainsi un pêle-mêle sur les autres sports et les autres infos qu'il peut y avoir sur le sport local. Et puis sur le côté international, on aura un petit focus sur le football. On parlera déjà des résultats de la semaine passée, mais aussi on parlera un peu plus précisément de la situation des deux Olympiques de Marseille et de Lyon, et parce que c'est ces deux Olympiques qui sont un petit peu malades. Et puis on fera aussi un point sur le rugby, puisqu'on a maintenant que des experts autour de la table.
Ah, le monde de l'Ovalie, on maîtrise.
C'est ça, ça n'a plus de secret pour nous. Voilà, on se penchera sur la suite pour la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu cette victoire éclatante face à la Namibie. Et donc, on va essayer de voir ce qui peut attendre les Bleus avec le prochain adversaire, que ce soit l'Italie pour les poules et aussi le quart de finale. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va être en quart de finale? Est-ce qu'il y a un scénario catastrophe qui peut arriver? On verra tout ça. Et puis surtout, la blessure d'Antoine Dupont qui a évidemment largement fait parler. En basket, Faustin, tu vas nous parler un petit peu de l'équipe de France,
ouais,
notamment de la sortie de Nicolas Batum cette semaine. Qui a un petit peu fait de bruit, qui est très intéressante aussi dans son contenu. Donc voilà, tu nous parleras un petit peu de ça. Et puis sinon, il y aura d'autres infos sur voilà la Formule 1, le tennis, le cyclisme, mais aussi un peu d'athlétisme avec du demi-fond. Et ben écoutez, on va commencer sans plus tarder avec le football local. Après une sévère défaite à Rodez, le SCO devait se relancer face à une équipe de Bastia qui restait sur une fessée à domicile contre Laval, dominant en première période. Les Angevins vont être récompensés par le but de la tête de Pierrick Capel sur la première passe décisive de Zinedine Ferrat sous les couleurs angevines. Dans la foulée, un autre corner a bien failli faire prendre le large aux scoïstes, mais qui ont été trop maladroits devant le but. Toujours à l'offensive en deuxième mi-temps, les joueurs d'Alexandre Dujeu vont se mettre à l'abri grâce au but de Jean-Matteo Baoya sur un service de Lilian Rao Lisoa. Au classement, le SCO réalise une bonne opération en remontant à la 7e place avec 11 points. Ce soir, les Noirs et Blancs ont même l'occasion de monter sur le podium s'ils s'imposent sur le terrain de Quevilly-Royan. Car oui, il y a une journée en semaine ce soir et le match aura même commencé avant la fin de l'émission, coup d'envoi à 20h45. Voilà, donc s'il y a un but, on vous tiendra au courant. Et je vais me pencher vers toi, Clément, pour nous donner la composition du SCO.
Donc, sans surprise, Fofana au gardien. C'est un 4-4-2. Bon, j'ai pas exactement la composition, mais je pense que c'est un 4-4-2. Donc, il y a Bamba à droite, Lefort et Ntoundjid dans l'axe. Valérie à droite, le capitaine Pierre Capel.
T'as deux personnes à droite là, faut se trouver.
À gauche, Valérie à gauche, parce que le capitaine Pierre Capel et Jordan Lopi dans l'axe. À gauche, Abdelli et à droite, Raoul Lisoa. Et nos deux attaquants, le meilleur buteur pour l'instant, Loïs Diony et Ibrahim Anian pour le compléter.
Et effectivement, donc très belle compo pour le score. On suivra évidemment l'évolution du score pendant l'émission. Niveau football, on a également deux autres résultats locaux avec la victoire 1-0 du SO Cholet du côté de Dijon. Une belle victoire qui leur permet de remonter un petit peu au classement dans un championnat national qui est très très serré. Également, on a la défaite 3-1 de la Croix-Blanche, l'équipe féminine d'Angers qui s'est inclinée donc du côté de Bourges. Voilà pour son deuxième match de championnat en Division 3.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le SCO a quand même, enfin voilà, bien réagi quand même. Voilà, il y a de l'amélioration, il y a des résultats qui commencent à arriver.
Oui.
Et voilà, enfin cette septième place, finalement, elle est pas si logique au vu des débuts difficiles. Ça prouve que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se crée au niveau du groupe. On a eu tendance à être dur avec eux quand on sentait pas l'envie. Là, il faut aussi relever qu'il y a sûrement quelque chose qui se fait. Et quand tu regardes le classement, les équipes qui sont devant. On n'a pas à rougir à être à cette place-là. On a quand même Saint-Etienne qui est juste derrière. Juste au-dessus de place, on a Auxerre. Auxerre qui était en Ligue 1 comme nous l'année dernière. Donc, j'espère en tout cas qu'on est sur un bon dynamisme et puis que, voilà, on va tenir au moins, voilà, je pense qu'un top 10, ce serait correct cette année, quoi.
Puis surtout que c'est très serré pour l'instant. Enfin, Laval est à 5 points alors qu'ils sont premiers. Enfin, c'est vraiment.
Ouais.
Ça reste le début de saison. Donc,
c'est ça.
Il n'y a pas non plus une équipe qui a pris largement large qui serait rattrapable.
Oui.
C'est clair que.
On a quand même joué déjà par rapport à notre niveau, des matchs qui étaient importants.
Ouais, c'est clair.
Et on a bien tenu. Donc,
aujourd'hui, on joue contre le 20e. Donc on espère une victoire quand même.
Je crois qu'il y a Bordeaux qui arrive bientôt.
Soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines.
C'est ça. En tout cas, voilà, ça va être un bon test, je pense. Comme en préparation, Bordeaux va peut-être nous donner des idées un peu plus claires sur sur l'équipe. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Petite correction. Clément, notamment, tu as sur la compo.
Oui.
Je sais pas s'il y a un petit changement, en tout cas, notamment du SCO. Le SCO qui communique une défense effectivement a priori à 4 avec Lefort, Otunji, Bamba, Valérie. Un milieu donc Lopi, Capel, Abdelli, mais il y aura en attaque notamment Ferrat et El Melali qui accompagneront Diony. Donc voilà pour la composition du SCO.
Excusez-moi.
Pas de souci, c'est pas grave, ça arrive. On va passer maintenant au basket. Faustin, comme je disais, ça s'est plutôt bien passé pour nos clubs. On commence par qui ?
On va commencer par, on va dire, les mauvais élèves.
C'est ça.
C'est l'EAB qui ont joué deux matchs. C'était le premier pour les 64e de Coupe de France. C'était contre Chartres. Et c'est malheureusement ici que s'arrête déjà l'aventure des Angevins, car ils ont perdu 75 66. Ils ont ensuite joué leur deuxième match de Leaders Cup, c'était contre Nantes, et là aussi ils sont inclinés 89 à 103 à domicile. Ils jouent le match retour le 29 à Nantes. Pour les joueuses de l'UFAB, elles démarrent très bien leur saison avec une victoire 62 à 50 à domicile contre Saint-Amand. Elles jouent leur prochain match le 1er octobre contre l'ASVEL. Ça va pas être le même morceau, ça risque d'être un match beaucoup plus compliqué.
Bien que l'ASVEL a failli ce week-end, il me semble.
J'ai pas la stat en tête, mais il me semble que
l'ASVEL perd ce week-end.
Qui jouait, mais attends,
je vais vérifier, t'inquiète, mais il me semble justement que ça a été une des surprises de cette première journée.
Mmh. C'est peut-être du coup une occasion pour les joueuses de l'UFAB qui peuvent prendre un match important dès la deuxième journée, ce serait cool. Maintenant, côté Cholet, c'est leur deuxième victoire en championnat, car après Roanne, comme leurs homologues footballeurs, ils ont joué Dijon. C'est les Dijonais qui n'ont pas pu résister à l'attaque choletaise. Victoire donc 62 à 60 des Choletais. Demain, ils jouent leur premier match qualificatif pour la Ligue des Champions européennes, mais ça sera sans le capitaine Kim Tilly, qui s'est blessé malheureusement contre Dijon. À voir comment les Choletais vont réussir à pallier à cette défense, ce manque, notamment au niveau du rebond où Kim Tilly fait un job énorme, en espérant que ça passe quand même et que on les voit jouer un peu plus que des matchs qualificatifs en Europe.
Et oui, ça va être intéressant de suivre Cholet sur la Ligue des Champions.
Ouais.
Et puisque l'année dernière, ils ont réussi à terminer en finale de la C4, la Coupe d'Europe de la FIBA.
Et ouais, donc du coup, c'est bien ça. L'ASVEL a perdu donc son premier match 66 à 58.
Pour le basket féminin.
Pour le basket féminin, oui, voilà. Et il y a aussi Basketland qui a perdu 88 à 70.
Donc voilà, c'est
c'est le début de la saison, mais
il y a des coups à jouer.
Mm. Bah, ça fait que oui, on a un UFAB qui est quand même quatrième après la première journée. Mm. Voilà, si on prend le classement actuellement, il y a Villeneuve-d'Ascq, bon, habitué, j'ai envie de dire.
Ouais.
Montpellier, Bourges. Nous, on est du coup quatrième. Flamme Carlo qui est cinquième. Et voilà, enfin c'est.
Ouais, c'est pas. T'as pas les favoris en 1, 2, 3
En tout cas, voilà, c'est première journée, il y a quand même des surprises.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que l'année dernière, on avait vraiment des cavaliers seuls,
T'avais équipes qui ont perdu.
C'est ça, ouais.
Voilà, que ce soit Bourges, c'était qui d'autre?
Basketland, l'ASVEL.
En fait, il y avait un top 4 qui ne perdait quasiment jamais.
Il y avait 6 victoires de différence, voire plus entre le 4ème et le 5ème.
Et puis, c'est vraiment 4 têtes de série.
Si on voit les matchs de préparation qu'ont fait les filles, elles ont joué elles ont joué Basketland.
Elles ont battu Basketland.
Elles ont battu. Voilà, donc enfin
Basketland qui a désormais Alexis Peterson dans ses rangs. Et donc voilà, on verra si
on lui souhaite de réussir là-bas, mais bon,
on souhaite quand même de gagner contre
si pour l'instant ils sont dans les difficultés quand on va les rencontrer, on prend aussi, mais en tout cas c'est bien au moins ça, en tout cas cette première journée est plutôt intéressante en termes de résultats.
C'est ça.
Et je pense que, on sait que beaucoup, que ce soit l'ASVEL féminin ou masculin, on sait que c'est compliqué aussi depuis un moment en interne, tout ça. Enfin, donc est-ce que ça joue aussi sur le club et sur les joueuses? À voir aussi si ça va pas cette année être une saison en demi-teinte aussi pour eux. Ça va être des choses intéressantes à suivre, quoi.
Exactement. On va enchaîner avec le handball. Après 3 journées, les handballeurs du SCO sont confrontés à la forte concurrence de la Pro League. Face à Massy ce week-end, les Angevins ont bien cru pourtant l'emporter sur le parquet des Franciliens, puisqu'ils menaient 18-16 à 18 minutes de la fin du match. Finalement, les joueurs d'Issam Tej ont craqué dans le money time en encaissant un 11-4 dans les 20 dernières minutes. Toujours pas relégués grâce à leur victoire, notamment la semaine passée, les SCOistes tenteront de se relancer à domicile jeudi soir contre Nancy. On va passer aux questions glace maintenant. La nouvelle saison des Ducs d'Angers démarre sur les chapeaux de roue avec 4 victoires en 5 matchs en Ligue Magnus. Mais la performance de la semaine, c'est surtout ce bel exploit des joueurs de Jason O'Leary face aux champions de France en titre Grenoble. Là, à l'Ice Park, donc vendredi, les Ducs ont mis le feu pour décrocher un succès majeur 5-2 face à un rival pour le titre. 3 jours plus tôt, les Angevins avaient disposé des Gothiques d'Amiens 4-2. Et ce soir, il y a un match à 20h30 et il pourrait donc bien enchaîner une 4e victoire consécutive sur la patinoire des Rapaces de Gap. Cédric, notre expert, des Ducs d'Angers, c'est très positif comme début de saison.
Bah, en tout cas, oui, parce que voilà, on a, alors, je sais pas si on peut dire peiné, parce que comme j'ai pas vu le match contre Rouen.
C'est ça, c'est la seule défaite, c'est contre.
C'est la seule défaite, et on sait que voilà, c'est pas habituel, mais c'est toujours des matchs compliqués.
C'est
voilà,
c'est un rival.
C'est
aussi.
Voilà, c'est notre rival direct. Mais Grenoble généralement est solide. Faudra vérifier les stats sur plusieurs saisons par rapport victoire-défaite avec les Ducs. Mais ouais, c'est un début de saison aussi là un peu surprenant. J'ai pas regardé le classement, mais par exemple, on sait qu'il y a eu l'arrivée de Marseille, qui a fait quelques petits coups aussi en début de saison. Il y a peut-être une nouvelle dynamisme qui est en train de se créer. Alors je sais pas si Grenoble joue une Coupe d'Europe comme Rouen. Ça peut peut-être aussi expliquer ce début de saison plus ou moins compliqué.
Faudra alors Rouen est invaincu, il y a 5 matchs, 5 victoires. Par contre, Grenoble est plus dans la deuxième partie de tableau.
C'est ça, ouais, c'est ça qui est un peu surprenant. Après, à voir, il y a peut-être eu aussi beaucoup de changements dans l'équipe. Il y a peut-être c'est comme tout, hein, il y a peut-être aussi une fin de cycle. Après, au hockey, tout va très vite. Hein.
Exactement. Il y a tellement de matchs que...
C'est ça, voilà.
Ils peuvent aussi remonter très vite.
Là, analyser pour l'instant, oui, c'est inquiétant pour eux. C'est très bien pour nous, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, nous, on est sur notre continuité, voilà, de jauger...
En tout cas, c'est un succès qui va faire du...
Pour les playoffs,
qui va donner de la confiance au groupe, ça c'est clair. Ouais.
En tout cas, pour nous, oui, je pense que ça va renforcer la confiance. Je crois que même notre gardien, là, sur les deux derniers matchs, il a un taux de réussite en termes d'arrêt qui est impressionnant. Enfin,
ouais.
Non, c'est encourageant. Après, on sait très bien que voilà, la saison va être quand même longue. Je sais pas si on a encore eu les dates pour la Coupe de France, mais il y a ça aussi qui va arriver très vite.
Si, bah là je les ai. La Coupe de France elle démarre le 24 octobre, le 24-25 octobre.
Ouais, donc on est à un mois de la du début, donc je pense que c'est là qu'il va falloir, oui, prendre un maximum de confiance sur tous les matchs qui arrivent pour bien la protéger.
Ouais.
Et puis aller chercher les matchs, je pense que. Cette année, pareil pour nous, c'est une transition aussi hein, dans l'organisation de l'équipe,
notamment
dans le club, enfin sur beaucoup de choses qui changent. Bien sûr, l'objectif reste la Magnus, hein, ça c'est logique, hein, j'ai envie de dire, mais je pense que on peut aussi aller rechercher cette Coupe de France qu'on a déjà gagnée plusieurs fois. Enfin, c'est.
Puis comme il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça.
Ouais, mais après, ouais, même si on gagne la Coupe de France derrière, il y a pas forcément de coup d'or parce que le champion,
Ah, mais ce qui veut dire, c'est que
cette année, il y a pas.
Ah oui, tu veux dire, en termes de fatigue,
ouais, c'était aussi l'un des problèmes de l'année dernière.
Ouais, mais au final, je trouve que quand on a fait le bilan de la saison, malgré qu'il y ait eu beaucoup de matchs, je trouve que justement, ils avaient gagné en qualité et tout. Alors, ouais. Ça a été dur, forcément. Sur les playoffs, mais bon, parce qu'on est tombé contre Rouen,
ouais.
C'est toujours compliqué. Hein. C'est, de toute façon, c'est une histoire d'amour. Je t'aime, moi non plus. Enfin, avec eux, c'est. Mais en tout cas, non, oui, sur le papier, le calendrier est beaucoup plus allégé. Mais je pense que justement, cette année, ils ont envie de confirmer beaucoup de choses.
Ouais. Exactement. Ça va être intéressant de suivre les performances des dangers.
À noter, c'est que les recrues. Sont efficaces aussi ouais, directement. Enfin voilà.
Au groupe et puis il y a toujours des anciens qui sont là, notamment Vincent Liorca qu'on avait reçu dans l'émission il y a quelques années de ça. Voilà pour les Ducs d'Angers. On va évidemment, comme je le disais, suivre
et du coup,
leur parcours et également le match qui commence dans 5 minutes du côté de Gap.
C'est ça.
Exactement. Donc on suivra ça. Quatre petites informations sur un petit peu omnisport. D'abord, signaler le doublé de Solène Bilouin, pensionnaire notamment du SCO cyclisme, qui a remporté la Coupe du Monde Xterra. C'est dans la discipline du cross triathlon. Et donc voilà, elle a pu l'emporter une seconde année consécutive. Donc bravo à elle. Et puis une autre vainqueur. Une lauréate plutôt de la Dalle Angevine, Pauline Frélon, qui a été sacrée ce week-end double championne de France en kayak marathon, notamment en K1 et en K2. Et puis on va aller du côté du tennis de table avec les Loups d'Angers qui ont signé 2 victoires en une semaine avec ce succès 3-1 contre Caen et une autre victoire 3-2 contre Torigné. Donc les Loups d'Angers qui démarrent sur les chapeaux de roue également leur saison. Et puis pour le SCO rugby, ça a été une défaite ce week-end sur la pelouse de Parthenay. Défaite donc 24-10 pour les rugbymen angevins. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le sport local. Comme je le disais, on va suivre tout au long de l'émission en fil rouge à la fois le match des Ducs d'Angers qui commence dans 5 minutes et à la fois le match du SCO contre Quevilly-Rouen qui va démarrer pour le coup à 20h45. On va s'écouter tout de suite Doja Cat et son titre Woman et on se retrouve juste après.
For no reasons, they wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.
Woman, let me be a woman.
De retour dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur Internet via le site www.radio-g.fr ou bien pourquoi pas encore sur les outils d'App+. Voilà pour donc cette petite pause musicale. On est de retour donc avec Faustin, Clément et Cédric pour évoquer notamment l'actualité sportive du côté international cette fois. On vous le répète, mais évidemment on suivra ce qui se passe du côté des Ducs d'Angers, mais aussi du SCO, qui deux équipes qui jouent ce soir. On va avant ça évidemment revenir sur l'actualité avec notamment le football. Pour une fois, les résultats des clubs français en Europe ont été positifs la semaine dernière, il faut le souligner, avec 3 victoires et 3 matchs nuls. En Ligue des Champions, Paris s'est imposé tranquillement contre Dortmund 2-0 et Lens a décroché un précieux nul à Séville 1 partout. En Ligue Europa, Rennes a disposé du Maccabi Haïfa 3-0. Toulouse a été mise en échec sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Et Marseille a remonté l'Ajax d'Amsterdam en revenant à 3 partout. Enfin, en Conférence League, Lille a parfaitement débuté sa compétition en s'imposant 2-0 contre Ljubljana. En Ligue 1, le sommet de cette sixième journée, c'était le Classico au Parc des Princes entre le PSG et l'OM. Un classique à sens unique avec l'éclatant succès parisien 4-0 sur les Marseillais. Pour les autres résultats, Nice et Brest ont fait des bonnes opérations en s'imposant 1-0 respectivement contre Monaco et Lyon. Le Havre a enfoncé Clermont 2-1. Nantes remporte un match spectaculaire 5-3 contre Lorient. Strasbourg s'impose 1-0 à Metz. Lens gagne son premier match contre Toulouse 2-1 et Montpellier et Rennes se séparent sur un score nul et vierge. Voilà pour les résultats. On va maintenant rentrer dans le fond, on va dire, avec les situations des deux Olympiques qui sont assez, je vais pas dire calamiteuses, si peut-être. Pour certains aspects, on va commencer par Marseille parce que voilà, c'était l'actualité notamment il y a une semaine tout juste avec ces rumeurs de départ de Marcelino qui se sont concrétisées dès le lendemain par la démission du coach espagnol en cause une réunion assez virulente entre les supporters de l'Olympique de Marseille, les chefs de groupes supporters.
Certains, il faut préciser, certains.
Voilà, certains.
Parce qu'au final, il y avait peut-être, d'après ce que j'ai compris, que deux groupes de supporters.
C'est ça.
Qui étaient présents.
Et il y avait donc surtout certains membres, enfin, certains.
Donc, un, on va dire, emblématique, qui a déjà bien fait parler de lui autour
de. Je crois que son nom, c'est Rachid Zerouki, si je dis pas de.
J'ai plus tout à fait, mais oui, je crois que c'est ça.
De bêtises. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, c'était une réunion qui s'est passé, on va dire, dans la violence verbale, on va dire ça comme ça, en tout cas avec des demandes fortes véhiculées par donc ces quelques supporters face à la direction, puisque la direction était là, notamment Pablo Longoria qui était visé. Alors l'entraîneur n'était pas là, mais n'a pas du tout aimé cette ambiance et a donc décidé de partir. L'OM donc cherche désormais un nouvel entraîneur malgré l'intérim de Jacques Abornado, j'espère que je prononce bien. Voilà, l'OM qui donc a eu deux matchs entre-temps, donc cette défaite assez humiliante face au PSG, même si évidemment le PSG c'est la meilleure équipe en France. Ça reste un classico et 4-0 ça reste un gros score. Et puis voilà, ce nul quand même qui montrait des bonnes choses face à Amsterdam, même si ils ont été assez menés rapidement dans le match. Messieurs, sur
ce qu'il faut rappeler,
dis-moi,
c'est que l'origine de tout ça, c'était le match d'avant.
Oui,
avec les supporters qui ont pris déjà en partie les joueurs.
La performance des joueurs qui était aussi pas forcément au niveau.
C'est ça, mais ça, ça part aussi.
Assez insipide.
Ça part aussi de ça, de base.
Ouais.
Et ensuite, il y a cette fameuse réunion qui, au départ, c'est des réunions qui sont.
Classique,
voilà, c'est une volonté du club aussi de communiquer un peu sur ce qui est fait aussi bien au niveau professionnel que tout ce qui entoure en fait le centre de formation. Mm-hmm. En gros, dans les choses qui auraient été dites, bon, forcément, on a reproché le style de jeu, des choses aussi par rapport aux conditions dans le centre de formation, et il y a eu des mots apparemment assez forts
c'est ça.
À l'encontre des dirigeants.
Voilà, il y a évidemment des démentis, on va dire, des deux côtés, voilà, il y en a qui parlent de grosses intimidations, ça parlait même de menaces au début, Voilà,
bah, c'est pas des, en fait, sujet, c'est pas des menaces claires, on va dire.
Moins,
c'est...
Ça a été au moins très virulent.
C'est très imagé, ouais.
Ça a pas été une bonne ambiance, en tout cas, pour notamment, l'entraîneur, l'ancien entraîneur marseillais. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que, il n'y a pas un problème, justement, vis-à-vis de l'importance de ces supporters, dans le club marseillais? On sait aussi que c'est, les supporters, c'est parfois quelque chose qui peut, je dirais pas ralentir les clubs, mais qui peut les pénaliser sur le point de vue comptable et sportif. On l'a vu avec Saint-Etienne, on le voit parfois sur d'autres clubs où ça déborde. Est-ce que ces supporters qui prennent à partie le directoire, c'est pas un peu trop?
Bah, le problème de Marseille, c'est... Après, si on fait un constat général, on peut l'appliquer à n'importe quel club, c'est que depuis un moment, on se rend compte que les supporters essayent de faire les directeurs sportifs, les actionnaires du club, dans leurs revendications.
Ils essayent d'avoir de l'influence, en fait.
Ils essayent d'avoir de l'influence. Ça, c'est dans tous les clubs, le score en premier, hein, on l'a vu, on a été même nous les premiers, quelque part aussi, à dire, faut que ça démissionne, il faut tel joueur qui arrive, enfin, voilà. Quand ça reste à ce niveau-là, ça reste bon enfant. Le problème, c'est que Marseille, on sait que le foot,
c'est le foot.
C'est le foot. C'est,
non, le foot, c'est tout, autre chose.
Voilà. C'est pas Marseille, le foot et Dieu, on va dire.
C'est ça.
À leur niveau. Et le problème, c'est que c'est peut-être une erreur de communication sur plusieurs années. C'est que on leur a donné des droits de s'inclure un peu dans la vie professionnelle du club. Ensuite, on leur a donné libre d'organiser les ventes des places, etc. Et forcément, bah, y en a certains, je pense que dans leur tête, ils se sont dit, bah, vas-y, on va jouer le pouvoir, on va chercher plus lourd, on va essayer de s'inclure dans l'organigramme. Et ça a plus ou moins marché parce que, comme il y a eu des rapports aussi bien dans l'équipe, mais sur d'autres sites aussi. Comment t'expliques quand à l'arrivée d'un nouveau joueur, t'as les supporters qui sont là pile poil à l'heure et limite sur le tarmac pour un joueur qui débarque en avion?
Ah, ça après, ils peuvent s'enseigner sur les avions qu'il y a.
Oui, mais ça veut dire que tu leur fournis l'information, tu vois.
Oui, évidemment.
Donc ça veut dire que tu leur donnes des informations internes au club. Normalement, ton joueur arrive, tu vas pas divulguer à tout le monde. Allez, venez tous, tu vois, t'essayes de le faire arriver tranquillement. Il va faire sa signature.
C'est des bonnes images, quand
même. Oui, non, mais je dis pas que c'est... Mais tu vois, c'est un petit truc qu'on donne. Et puis après, y en a d'autres qui ont envie de s'impliquer encore plus, un peu plus. Ouais. Et on arrive, c'est que, sur le principe, je trouve ça bien, tu vois, qu'il y ait une communication entre les différents groupes de supporters et l'organigramme principal d'un club. Ça permet d'échanger quand il y a des soucis. Voilà. On voit par exemple à Nantes, ça va en sens unique et c'est toujours en crise, quasiment. Et là, le problème, c'est qu'il y en a certains, ils se croivent réellement dans l'organigramme du club et ils ont envie de dicter leur loi. C'est bête à dire, mais c'est les mêmes qui avaient fait cramer le centre de formation il y a quelques années.
La commanderie, ouais.
La commanderie.
En 2021,
voilà.
Je crois.
Suite à ça, il y a eu peut-être ça a un petit peu calmé les choses. On sait que voilà, par exemple Deschamps avait eu des intimidations, ça a été prouvé plusieurs fois via différents reportages, ça n'a pas été démenti.
Même oui, ça a été avoué en fait.
Voilà. Et le problème, c'est des gens comme ça. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils font encore dans ces cas-là, dans les milieux, quand ils autorisent à diriger des groupes de supporters?
Ouais.
Le supporter, il a le droit de se prononcer, il a le droit d'être mécontent. Mais à un moment, tu peux pas te mettre à la place et dicter la direction. Ou dans ces cas-là, club de supporters, sortez les billets.
Ouais. Messieurs Faustin et Clément, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être sur le point de vue sportif, potentiellement ça parlait de aussi le départ de Longoria. Ce serait potentiellement le projet marseillais entier qui serait en péril en cas de départ du président espagnol.
Ouais, moi je trouve ça bizarre quand même de faire ça après l'énorme mercato qu'ils ont fait cet été. Qui sur le papier avait l'air génial, j'étais vraiment personnellement hypé de fou par cette équipe. Et là, ça fonctionne pas certes, mais vraiment virer toute la direction, dire que c'est enfin, vraiment, on remet leur faute à 100% sur eux, j'ai l'impression. C'est peut-être difficile quand même. Enfin, c'est. Faut peut-être laisser le temps. Ça va pas se faire sur 7 journées de Ligue 1. Je crois que c'était la 7e, peut-être, la dernière fois. Ou un peu moins.
5. Alors, ce week-end, c'était la 6e.
Ouais, 6e. Voilà. Du coup, enfin, c'est monté vite au créneau de toutes parts.
Et au final, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.
Bah oui, c'est vrai. Et peut-être que c'est là le problème, que ça allait trop vite, tout s'est fait trop vite. Enfin, les supporters ont voulu trop de changements trop vite, et ce qui va peut-être encore plus les mettre en péril, parce que le coach, j'imagine qu'il avait un projet en choisissant certains joueurs, etc., qui vont peut-être moins plaire à un autre coach qui va arriver, etc.
Il parlait de Fabien Galthié à l'OM.
Fabien Galthié, ouais. Non, je pense qu'il est occupé, Fabien Galthié.
Christophe Galtier.
Mais justement, tu
il était à Marseille en plein temps ce week-end, hein, mais
tu trouves la transition parfaite, parce que justement maintenant la question ça va être quel est l'avenir au niveau du coach sur
et dans
effectivement
quelle condition.
C'est ça, et il y a la rumeur Christophe Galtier qui apparaît comme alors insistante, il y a pas mal de sources qui annoncent que c'est la piste numéro un pour Longoria. Après, rien n'est fait encore une fois, mais évidemment ça pose problème, parce que c'était l'entraîneur du PSG la saison dernière. C'est un entraîneur qui va en décembre comparaître devant la justice pour discrimination à caractère notamment religieuse et également harcèlement au travail. Et puis c'est vrai qu'il a pas eu forcément des bons résultats, que ça soit au PSG ou à Nice, même si à Lille ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en penses, notamment toi Clément, de cette rumeur, et est-ce que tu vois un autre coach débarquer?
Juste pour revenir un petit peu sur les supporters, je trouve ça dommage, parce que c'est souvent dans les plus grosses ambiances, enfin Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille, qu'il y a le plus de problèmes, et enfin les supporters.
Oublié Lens.
C'est vrai, Lens avec Lille, oui bien
Lens,
sûr.
Lens, pas les oublier.
Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est dommage que il soit pas là juste pour supporter et mettre chanter quoi, et qu'il y ait des problèmes comme ça et qui influe jusqu'à faire virer le coach et même le président, enfin
c'est... après ce que personne n'a relevé pour l'instant, et c'est que il y a beaucoup de supporters qui se sont désengagés des propos qui ont été dits.
Bien sûr.
En disant on sait que ces groupes là
Oui.
veulent imposer leur vision à Marseille. Nous, ce qu'on veut, c'est plus de résultats, oui, mais on veut pas la tête du coach, on veut pas la tête du président, et s'il le faut, on se mettra en porte-à-faux contre ces gens-là. Et c'est une chose aussi importante, c'est que c'est finalement une minorité qui se fait entendre très fort.
Et surtout que Marseille avait des bons résultats. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était non plus la catastrophe. Comme ils le disent, on a l'impression qu'ils étaient derniers de Ligue 1, qu'ils avaient perdu tous leurs matchs, alors qu'ils sont sixièmes, je crois, ou septièmes.
Ils étaient quand la crise a eu lieu, ils étaient sur le même schéma quasiment des deux dernières années, entre la troisième et quatrième place.
C'est ça qui m'étonne énormément. Enfin.
Et du coup, sur le point de vue sportif, pour la suite, ouais. Sur l'entraîneur, après je vais tous vous consulter, mais sur Galtier, en tout cas, de mon point de vue, ça paraît être une mauvaise idée. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Clément?
Peut-être que du point de vue que sportif, ça peut apporter à l'OM, parce que Galtier, c'est quand même, je trouve que c'est un bon coach. Même à Nice, il a fait des bonnes choses. Enfin, il a quand même réussi à remonter le club, je trouve, après. Ouais. Mais après, avec les supporters encore, ça risque de poser des problèmes. Déjà qu'il y a des problèmes sans animosité avec le coach. Là, avec le coach qui vient du club ennemi, en plus qu'il l'a coaché un an avant.
Ouais. Après, sur Galtier...
Toi qui le connais bien, ancien supporter... Enfin, supporter à Saint-Denis.
Toujours supporter.
Toujours, même si c'est en Ligue 2, ça continue toujours.
Fais gaffe, toi, avec Lyon, je vais te demander si t'es aussi...
Oui, ça va. On y revient juste après, calme-toi.
Mais ce genre d'ambiance, il l'a connu, que ce soit Saint-Etienne, que ce soit Paris.
Oui.
Donc en soi, il peut avoir les épaules. Faut pas oublier, c'est un Marseillais d'origine. Donc, sur le papier, il a tout ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, alors après, je sais pas réellement si c'est vrai ou pas, ça a plus ou moins sondé les supporters. Il y a l'air d'avoir un avis favorable.
Sur les supporters.
Ouais.
Sur les réseaux sociaux, il y a eu un hashtag Galtier not welcome. Donc je suis pas sûr que.
Bah écoute, moi j'ai eu le, tu vois, les infos différentes. Donc comme quoi. Bah
après, oui.
C'est pour ça. Avoir, c'est.
Non mais c'est un truc assez.
Après, faut, avec un hashtag, faudrait réellement.
Non mais ça reste un voilà, oui, qui va être clivant forcément, c'est ça, parce que mais il arrive avec une affaire en cours de justice.
Après c'est ça, voilà, pour, c'est
qui est pas forcément parfaite pour diriger.
Pour l'instant, j'ai envie de dire, il est, enfin, il est présumé innocent.
Ah non mais oui, c'est ça le truc. C'est même pas la question de savoir s'il est coupable ou innocent. C'est, donc, c'est non, de non, savoir mais... qu'il va devoir se rendre au tribunal pendant qu'il exerce son métier.
Ouais, mais alors que ça après ce serait pas la première fois qu'un
oui, non, mais...
qu'un entraîneur devrait démissionner. Après ça veut dire ouais, que par contre ce serait compliqué. Bah ça veut dire que tu rechanges à nouveau d'entraîneur. S'il est en pleine réussite, effectivement, ça pourrait poser souci. Après oui, si. Par rapport au nom qui est donné aujourd'hui de prétendant, pour moi, il aurait sa place, quoi.
Ouais, ok. Faut savoir, tu voulais dire, Galtier était pour ou contre, rapidement.
Concrètement, à cause des problèmes judiciaires, j'aurais dit non.
Ouais. Et c'est un trop gros frein.
Ça, s'il y va, c'est que s'il y a des résultats sur le terrain qui pourra plaire aux supporters, sinon, bah, il va faire comme tous les autres coachs et il va se faire huer et insulter, quoi.
Donc voilà, on suivra la situation de Marseille, même si sportivement, pour l'instant, c'est à part cette défaite face au PSG, ça reste positif. Il y a un autre club, un autre Olympique où les résultats sont beaucoup beaucoup moins positifs. C'est l'Olympique Lyonnais qui a seulement 2 points après 6 journées. Des résultats donc qui sont assez catastrophiques, qui ont engendré le départ de Laurent Blanc, notamment l'arrivée de Fabio Grosso, ancien entraîneur de Frosinone la saison dernière et champion de Série B, ancien joueur du club également. Voilà, il y a beaucoup de polémiques autour de Lyon, notamment sur le fait que il n'y a pas forcément de directeur sportif, et on ne sait pas trop vraiment qui est à la tête du club.
Y a-t-il une direction? C'est ce que je vais dire.
C'est ça. Il y a un président exécutif avec Cucci, il y a un président, on va dire, qui est là avec Textor, mais qui est aussi proprio du club. Enfin, bref, c'est compliqué. Pour avoir vu un petit peu le match de Lyon contre Brest, c'est bon, l'équipe, elle est au point mort, que ce soit dans le jeu ou techniquement. Tous les joueurs, il y a un gros manque de confiance. On voit pas un collectif, on voit 11 individualités qui sont sur le terrain et qui en plus sont pas très fortes au foot, on va dire ça comme ça.
Bah, après,
L'effectif qui reste pas mal, bah mais sur le papier, sur la confiance en fait, la qualité des joueurs. Quand on regarde le match contre Brest, c'est une catastrophe. Justement, c'est une équipe qui joue maintien en fait. C'est ça qui est important de le dire, c'est que peut-être qu'on va arriver à un club historique de Ligue 1 qui va devoir, comme Bordeaux, comme Saint-Etienne à l'époque, comme peut-être même Monaco sur une période, jouer le maintien exceptionnellement avant de repartir peut-être sur autre chose. Mais en tout cas voilà, est-ce que vous pensez les gars que justement sur les, peut-être les objectifs après sur la situation, on a peut-être pas le temps de développer, mais est-ce que vous pensez que ce Lyon pourra se relancer et potentiellement aller chercher un petit truc en Europe, que ce soit en championnat ou via la Coupe de France, ou bien ils devront vraiment jouer le maintien parce que l'effectif est trop limité?
Ouais, je sais que j'avais dit en début de saison là, quand on avait parlé un peu de la reprise, que ça pouvait être une surprise justement. Et là, du coup, j'ai l'impression que ça y est, ça a fait paf, mais le feu d'artifice n'est pas là. Et ce qui est dommage, c'est que je pense pas que c'était un problème d'entraîneur.
Non.
Je pense pas que c'est forcément un problème de joueur, mais je pense que c'est simplement la guéguerre Aulas et Textor, mais tout ce qui est autour de lui, tout cet organigramme de fondation américaine qui est autour, qui fait que ça a un peu détruit le mercato. Quand même, enfin, tu relâches pas tes joueurs quasiment le dernier jour pour 3 fois rien au final. Les 2 joueurs qui sont partis, j'ai plus les noms, mais dont un en plus qui va renforcer Paris. Voilà. Enfin, et derrière tu joues un match où tes joueurs se font pareil bien remonter par tes supporters. C'est triste à dire, hein, mais il y a vraiment le feu à l'OL et ça va être dur d'être cinquième en partant du bas, quoi, pour eux.
Ouais, ah oui, ouais.
Parce que c'est le seul moyen pour eux de se sauver, en tout cas pour l'instant, à mes yeux, quoi. Et ce serait dommage parce que, voilà, Je sais plus combien d'années ça fait que
il y avait des qualifs
le club, ouais. Même sans parler de ça, mais de présence en Ligue 1.
Oui, c'est bien sûr.
Et alors, ok, c'est cool. Hein, on reverra des derbies.
Ouais, mais on a envie de les voir en Ligue 1.
En Ligue 2, si
on a envie de les voir en Ligue 1.
Mais voilà, non, mais ce qui est triste, c'est que ça affaiblira aussi le niveau de la Ligue 1 et après par basculement aussi sur les coupes d'Europe. Enfin, ça peut jouer sur beaucoup de choses.
C'était un club qui était très performant.
Ça ternit un peu l'image du championnat français au niveau européen aussi.
Alors, bien sûr,
c'est comme en Espagne. Il y aura peut-être bientôt Valence et Séville ou Séville qui seront peut-être en deuxième division.
Et puis ce qui est triste, c'est aussi qu'on voit, l'équipe en soi, elle est sur le papier, elle est vraiment bonne. Enfin, il y a Tolisso qui est un ancien champion du monde, il y a Lacazette, Cherki qui sont des très bons joueurs français, et les voir à cette place-là, c'est inimaginable, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est triste.
Effectivement, c'est triste. À qui le dis-tu, mon cher Clément? Voilà pour un petit peu le football.
Après, faut pas trop s'inquiéter non plus. Hein. Je pense que c'est un cycle aussi naturel pour tous les clubs.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est des gros clubs comme Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, tout ça qui tombe d'un coup.
Ouais.
Et, ça se trouve, dans 10 ans, ce sera Paris qui sera à nouveau dans le même état. Et malgré qu'ils ont peut-être plus d'argent. Enfin, voilà.
Ils sont peut-être pas adaptés à ce football.
C'est ça, c'est.
Ce nouveau football, ce football moderne. Voilà un petit peu. Alors, on a parlé beaucoup de football, comme un peu la semaine dernière. Vous inquiétez pas, chers auditeurs. On va revenir déjà sur d'autres sports là tout de suite. Et puis surtout, ce sera pas ça chaque semaine. C'était le temps de prendre le temps. Oui, c'est bien. pour parler un petit peu du début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Ce que je vous propose de faire, c'est que Faustin, tu vas tout de suite nous parler un petit peu de Batoum rapidement, et puis après je vous donnerai toutes les autres infos. Et si on a le temps, on parlera un petit peu de rugby. Alors Faustin, tu voulais nous parler de la déclaration de Nicolas Batoum. Je crois que c'était en média First Team.
Exactement.
Si je dis pas de bêtises, avec il est revenu sur une ancienne déclaration.
Ouais, c'est ça.
Post-élimination Coupe du Monde.
C'est la déclaration qu'il avait faite après le match, directement après le match contre la Lettonie, où la France du coup était sûre d'être éliminée de la Coupe du Monde. J'avais déjà réagi, moi aussi, à chaud finalement, où j'avais porté un espèce de coup de gueule envers l'équipe de France. Là, Nicolas Batoum, il est revenu sur sa déclaration, notamment le truc principal, c'est qu'il avait parlé de politique, etc. dans sa déclaration à chaud, là où tout le monde l'avait interprété dans le sens où il parlait de Thomas Hurtel, qui joue du coup en Russie, qui n'avait pas pu être sélectionné en équipe de France. Il a éclairci les choses en disant qu'il ne parlait pas du tout de ça, qu'il parlait de choses internes qui n'étaient pas visées au grand public, des choses qui lui étaient reprochées et qui sont aussi réglées, a priori, en interne, d'après ses dires. Il dit aussi, pour la sélection en équipe de France des joueurs, que lui-même voudrait, enfin c'est pas qu'il voudrait, mais c'est que il aimait le concept de mettre des joueurs en opposition, tous les joueurs potentiellement sélectionnables, plutôt que de faire comme ce qui se passe depuis plusieurs années, un groupe des 12 comme il l'appelle, qui sont sélectionnés sur chaque événement quand il y a la trêve en NBA, donc les événements de l'été, et de mettre tous les joueurs en compétition, et que potentiellement ni lui, ni Rudy Gobert, ni même Victor Wembanyama, s'il y a des mauvais résultats, ne soient pas sélectionnés, que ce soit vraiment les meilleurs. Ce qui veut donc dire que pour lui, l'équipe de France qui est cette année, c'était pas la meilleure. Chose sur laquelle je suis un peu d'accord là aussi. Autre chose qu'on sait, c'est que on a une pseudo-confirmation, j'allais dire, que Vincent Collet sera là pour les JO, même si on s'attendait pas à grand chose de plus. Et pareil pour Wembanyama, qui a répondu à des journalistes américains, qui sera là lui aussi pour les JO l'été prochain à Paris. Donc ça, c'est, on va dire, une bonne nouvelle et une nouvelle, on va dire. Pas une mauvaise nouvelle, pas une bonne nouvelle, une nouvelle.
Une nouvelle. Donc voilà pour ce point sur le basket. Tu restes positif quand même pour les JO?
Ouais, j'espère quand même. Ça a l'air d'avoir parlé en interne et j'espère qu'il y a des choses qui vont un minimum bouger quand même.
On a lavé son linge sale en famille.
Wait and see.
C'est ça, exactement.
Comme on dit.
On va enchaîner sur les autres infos de sport avec, pour commencer, la Formule 1, la victoire inattendue de Max Verstappen au Japon, devant notamment Lando Norris et Oscar Piastri qui complètent le podium. Les Français Ocon et Gasly terminent 9 et 10e.
D'ailleurs,
il y a eu un petit conflit entre Gasly et Alpine. Un problème d'info, de communication.
Problème
sur le dépassement d'Ocon. Ouais,
simplement de règlement interne. Voilà, c'est ce que je dis comme toujours. C'est, il y en a marre de faire de la politique. Tu dois laisser passer un tel parce que ceci, cela. Non, c'est, on arrête les consignes d'équipe. Ils se battent entre eux et basta. Il n'y aura plus ces problèmes-là.
Donc voilà effectivement ce petit conflit entre notamment Pierre Gasly qui s'est plaint de son écurie Alpine. Et puis on termine avec...
Les Red Bull sacrés dès ce Grand Prix-là, champion constructeur.
Exactement, c'est déjà fait pour l'écurie Red Bull. On va terminer donc avec trois petites informations omnisports. En tennis cette semaine, c'était la Laver Cup, un an après les adieux déchirants de Roger Federer au monde du tennis. Beaucoup moins médiatisé, cette édition voit, comme l'année dernière, la team Reste du Monde dominer largement la team Europe, composée majoritairement de Nord-Américains. Les tenants du titre n'ont laissé que des miettes aux Européens dans un week-end dans lequel le Français Gaël Monfils, invité par l'organisation pour faire le show, s'est un petit peu pris la tête avec le Canadien Félix Auger-Aliassime sur cette volonté justement de faire le spectacle. On va parler d'un autre sport maintenant avec le cyclisme. C'est un Français qui a mis tout le monde d'accord avec le titre européen du tricolore Christophe Laporte, celui qui porte d'habitude les couleurs de la Jumbo-Visma, a brillé sous le maillot bleu à l'occasion de la course en ligne des championnats d'Europe à Worcester aux Pays-Bas. Il est accompagné sur le podium par ses coéquipiers de la Jumbo, le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Olaf Kooi. Donc voilà pour Christophe Laporte, champion d'Europe. Et puis enfin, on termine sur le marathon de Berlin qui a vu notamment Kipchoge, le célèbre Kenyan, l'emporter chez les hommes. Mais on a eu également un record du monde sur l'édition féminine avec le record du monde.
D'une Éthiopienne dont le nom est Assef. Son nom de famille.
Assefa. C'est ça. Assefa qui a remporté donc le record du monde à Berlin, un record du monde battu assez largement. Voilà.
Est-ce que tu veux un point sur le match de hockey?
Eh ben j'allais le faire, donc je te laisse à toi l'honneur. C'est pas un bon point, mais vas-y.
Non, c'est pas un bon point parce que Gap avec les Rapaces, ils ont bien sorti les Serbes et on est toujours dans le premier tiers. Il y a déjà 3-0.
3-0 pour Gap contre Angers, ça soirée pour les Ducs. Pour le SCO, actuellement 0-0 entre Quevilly-Rouen et le SCO qui réalise plutôt une bonne entame de match, même s'il n'y a pas de grosses occasions pour l'instant.
Et une bonne info, j'ai vu que William Servat, donc le coach adjoint de l'équipe de France, a dit que Antoine Dupont serait normalement de retour à l'entraînement dimanche, donc présent pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Et c'est intéressant puisque ça va faire la transition, puisqu'il nous reste trois petites minutes pour parler justement de rugby. Il y a eu cette victoire donc 96-0, une victoire complètement écrasante contre la Namibie. C'était jeudi dernier, si je dis pas de bêtises.
C'était jeudi, ouais.
C'est ça. Le prochain match sera donc vendredi 8, le vendredi 6 octobre contre l'Italie. Ce sera le dernier match de poule pour les Bleus. Au niveau, donc, comme tu l'as dit sur ce match-là, Antoine Dupont s'est blessé notamment au niveau de la mâchoire. Il y avait des doutes sur sa présence ou non pour la suite de la compétition. Comme tu viens de le dire, il sera disponible en quart de finale. En quart de finale, on pourrait retrouver l'Afrique du Sud qui a perdu son match contre l'Irlande, puisque donc c'est dans le groupe B que ça se passe et que la France, si elle termine première, jouera
match
contre le deuxième. Mais, messieurs, il y a quand même un scénario catastrophe qui peut se produire. Hypothétiquement, si jamais les Bleus perdent contre l'Italie. Et là, pour le coup, il n'y aura pas d'histoire de bonus à choper sur ce match, puisque l'Italie, qui a donc deux matchs à jouer, pour pourrait, notamment s'il s'impose et que la Nouvelle-Zélande gagne ce week-end, ça pourrait être défavorable aux Bleus. Vous imaginez quoi pour la suite quand même? Ça va pas bousculer trop les plans des Bleus?
Non, parce que j'ai l'impression que dans notre poule, l'Italie, c'est un peu l'invité surprise qu'on n'attendait pas.
Oh, c'est pas étonnant qu'il soit... enfin, je pense que
qu'il soit dans le top 3, oui,
ouais,
mais qu'il soit aussi haut, pas sûr.
Bon, je sais pas, on verra bien.
Après, on a à peu près encore 15 jours pour,
ouais, c'est ça.
Pour se donner une idée.
On en parlera évidemment la semaine prochaine dans une prochaine émission de Génération Sport. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission. On va donc se retrouver la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle émission de Génération Sport. Et on va tout de suite vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G. Et on va vous souhaiter une très bonne soirée.